Merci beaucoup, Madame le professeur Delphine Perrin. Je suis très heureux d'être parmi vous à participer à ce séminaire de la chaire Aristote d'études méditerranéennes, frontières, société et droit au mouvement dynamique autour des mobilités en Méditerranée. L'intitulé de ce séminaire montre l'ouverture d'esprit et la discussion qui règne et qui est nécessaire à la fois entre nos disciplines et entre les deux rives de la Méditerranée, la rive nord et la rive sud. Et je crois que l'université et la recherche doivent encourager cette manière d'approcher les problèmes. C'est une manière beaucoup plus intéressante que celle des politiques, par exemple, où on entend beaucoup de choses, parfois contradictoires. Donc, je vais traiter de la question, comme vous l'avez dit, de la loi applicable au statut personnel des binationaux, une approche du droit international privé tunisien. La question est une question, c'est vrai, très technique sur le plan du droit international privé. J'espère que on pourra évidemment dialoguer et discuter. Et s'il y a certains concepts qui ne sont pas clairs, après, dans le débat, on pourra évidemment les évoquer. Je vais commencer par poser une question qui peut paraître de prime abord assez choquante. Peut-on être tunisien et avoir en même temps une autre nationalité? Peut-on être tunisien et binational? Cette question, qui semble a priori simple, est très complexe en droit international privé tunisien. Une toile de fond historique, religieuse et sociologique embrouille cette question en apparence purement technique. Historiquement, la Tunisie, ancien protectorat français, a combattu tout autant pour l'indépendance que pour la nationalité tunisienne. Les combats pour l'indépendance ont eu leur point d'orgue dans le combat contre la naturalisation française, contre la double nationalité, qui était assimilée à une haute trahison de la nation tunisienne. Assimilée à une haute trahison sur le plan politique, la double nationalité a été souvent assimilée aussi à une apostasie sur le plan religieux. Une confusion a longtemps régné en Tunisie entre nationalité tunisienne et religion musulmane, de sorte que l'on perçoit comme impossible d'avoir une double nationalité, comme il est impossible de croire en deux religions. Sur le plan sociologique, les doubles nationaux ont toujours été regardés avec méfiance et ont toujours été perçus comme suspects, surtout lorsque la double nationalité résulte d'une acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. Peut-on avoir dans sa chair l'amour de la nation lorsqu'on a plus d'une nationalité? Voilà la question qui se pose. Cette toile de fond historique, religieuse et sociologique explique que le droit tunisien de la nationalité n'a admis la possibilité d'acquisition volontaire d'une deuxième nationalité que sur le tard, et de manière timide et ambiguë. Dans le Code tunisien de la nationalité, promulgué par la loi du 22 avril 1963, l'article 30 prévoyait une perte automatique de la nationalité tunisienne en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. Par conséquent, dans le Code de 1963, on ne pouvait pas être binational avec une acquisition volontaire de la nationalité. Il y a des hypothèses où il y a une attribution de la nationalité tunisienne et d'une nationalité étrangère, mais on ne pouvait pas être né tunisien et acquérir une nationalité étrangère. Il y avait une perte automatique de la nationalité. Ce n'est que suite à la modification de ce code par la loi du 14 novembre 1975 que l'article 30 a permis l'acquisition volontaire d'une autre nationalité, mais avec une formule, et je vais vous lire l'article, avec une formule assez timide. L'article 30, après cette modification, dispose « La perte de la nationalité tunisienne ne peut être prononcée que par décret. En cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère par un Tunisien, la perte de la nationalité tunisienne ne peut être prononcée que par décret. L'intéressé est libéré de son allégeance à l'égard de la Tunisie à la date du dit décret. » Donc on parle toujours d'une perte de la nationalité, mais qui ne peut être prononcée que par décret. On a compris, en interprétant ce texte, que si on ne prononce pas de décret conduisant à la perte de la nationalité, c'est qu'on peut être binational. Et c'est de cette manière très timide qu'on a admis la binationalité. Et on a admis la binationalité pour répondre à un besoin sociologique. Nous avons beaucoup de Tunisiens émigrés, surtout en Europe, en France, etc., et qui demandaient d'avoir une autre nationalité que la nationalité tunisienne et ne voulaient pas perdre la nationalité tunisienne pour autant. Donc c'était surtout pour répondre à cela. Mais ce n'est pas une autorisation franche. On parle toujours d'une perte de la nationalité, mais qui n'est plus automatique, qui devient par décret, et il n'y a pas eu de décret prononçant la perte de nationalité simplement parce qu'on a acquis une nationalité étrangère. C'est par ce biais-là qu'on a permis la double nationalité. Ainsi, on peut déduire de cet article qu'il est possible d'acquérir volontairement une double nationalité sans perdre la nationalité tunisienne. L'absence de perte automatique a été conçue comme un moyen permettant le maintien d'une relation entre le Tunisien émigré et la Tunisie en dépit de son acquisition de la nationalité étrangère. Cette possible double nationalité par acquisition volontaire s'ajoute à la possible double nationalité par d'autres moyens, notamment par l'attribution en raison de la filiation. En effet, après la modification en 2010 du Code de la nationalité, l'article 6 nouveau dispose qu'est tunisien l'enfant né d'un père tunisien ou d'une mère tunisienne. Il y a une égalité entre hommes et femmes dans l'attribution de la nationalité désormais après 2010. Cela est de nature à démultiplier les cas de double nationalité de l'enfant lorsque la mère est de nationalité tunisienne et le père de nationalité étrangère, qui existait déjà sous l'empire des anciens textes par le bienfait de la loi. Le jus sanguinis de la mère, aussi bien que celui du père, permet aujourd'hui l'attribution de la nationalité. L'évolution vers l'égalité au sein du couple dans l'attribution de la nationalité s'accompagne désormais de l'augmentation des probabilités des doubles nationalités. Avec ces évolutions du droit tunisien de la nationalité depuis 1975, le droit des conflits de loi se devait d'évoluer et de suivre. En effet, et là, pour les non-juristes, le droit des conflits de loi, c'est quoi ? Avant, dans l'Antiquité, on concevait que chaque État appliquait sa loi. Mais avec l'ouverture du monde et la participation à une société d'étrangers qui vivent dans cette société, on a fini par admettre, et c'est là l'objet du droit international privé, qu'un juge peut appliquer une loi étrangère. Et c'est le droit des conflits de loi qui permet de dire quelle est la loi applicable. Et en matière de statut personnel, c'est la nationalité qui est le critère principal qui permet de dire quelle est la loi applicable. Par exemple, si j'ai un litige de statut personnel d'un Français et les tribunaux tunisiens sont compétents, en général, c'est le droit français qui sera appliqué, même par le juge tunisien. Et c'est ça la problématique que je pose pour les doubles nationaux. Donc, avec l'évolution du droit tunisien de la nationalité, le droit des conflits de loi devait suivre. Parce qu'avant 1975, évidemment, le problème se posait essentiellement lorsqu'on parlait du droit de la nationalité mononationale. Il avait une seule nationalité. Maintenant, du moment que le droit admet la binationalité, comment faire lorsque la règle de conflit utilise le critère de la nationalité ? Lorsque la règle de conflit me dit, par exemple, qu'en matière de statut personnel, j'applique la loi de la nationalité, et on a beaucoup de règles en ce sens. Je vais entrer par la suite dans le détail. Quelle est la loi que je vais appliquer si je suis devant quelqu'un qui est en même temps tunisien et français, ou algérien et français, devant les tribunaux tunisiens, et la règle de conflit me dit que c'est la loi nationale qui s'applique. Est-ce que je vais appliquer la loi nationale française ou la loi nationale tunisienne ou loi nationale algérienne ? C'est ça le problème majeur qui est posé en matière de conflit de loi. Avant 1975, on avait un décret du 12 juillet 1956 qui fixait les règles de conflit applicables en matière de statut personnel. Ce décret gardait un silence sur la question de la loi applicable au statut personnel d'un double national, tout en rattachant le statut personnel par la nationalité. Le rattachement étant fait par la nationalité, que devra-t-on faire en cas de double nationalité ? Évidemment, les textes qui ont été adoptés après la modification de 75 devaient attaquer ce problème, puisque désormais on a des doubles nationaux. De 75 à 98, c'était essentiellement une affaire de jurisprudence. On avait toujours les mêmes textes, la jurisprudence essayait toujours de trouver une solution au cas des binationaux lorsque la question se pose. Mais en 1998, le législateur tunisien a pour la première fois promulgué un code de droit international privé, précisément par la loi du 27 novembre 1998. Et ce code rattache principalement en matière de statut personnel par la nationalité. Je vais vous donner certains exemples d'articles. L'article 39 dispose « Le statut personnel est régi par le droit national de l'intéressé. Si l'intéressé » Bon, après, il va évoquer les cas de binationaux, etc., qu'on va évoquer ensemble. Ensuite, même en droit de la famille. En droit de la famille, les conditions de fond du mariage, d'après l'article 45, sont régies séparément par la loi nationale de chacun des deux époux. Autre exemple, en matière de divorce et de séparation de corps. L'article 49, le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi nationale commune des époux, en vigueur au moment où l'instance est introduite. À défaut de nationalité commune, la loi applicable est la loi de leur dernier domicile commun, s'il y en a, sinon la loi du fort. La succession. La succession, d'après l'article 54, la succession est soumise à la loi interne de l'État dont le ducus a la nationalité au moment du décès, ou à la loi de son dernier domicile, ou à la loi de l'État dans lequel il a laissé des biens. Donc là, ce sont certains exemples où vous voyez que le rattachement se fait par la nationalité, ou bien exclusivement, ou alors principalement dans le code de droit international privé. Beaucoup de justifications ont été présentées pour ce rattachement par la nationalité. L'héritage personnaliste. L'héritage personnaliste du droit musulman qui dissociait les personnes non pas sur la base de l'appartenance à un territoire, mais sur la base de la religion. Il y a une division personnaliste, musulman, non-musulman, etc. Il y a un certain héritage qui explique qu'on a plus tendance dans les pays musulmans à rattacher par la nationalité qu'à rattacher par le domicile. C'est l'appartenance personnelle qui est importante. Et le rattachement par la nationalité a pu facilement, en la matière, se substituer au rattachement par la religion, avec les confusions que cela a engendrées. C'est ce qui explique qu'au moment, par exemple, de la lutte nationaliste tunisienne, et vous connaissez l'histoire, il y avait toujours une idée que lorsqu'on a changé de nationalité, on a changé de religion. Parce qu'il y a cet héritage historique et la nationalité s'est substituée à la religion. Et jusqu'à maintenant, parfois, même si sur le plan technique, on dissocie nationalité et religion, souvent on perçoit, et là ce serait très intéressant de faire une analyse sociologique ou psychologique, il y a toujours un soubassement culturel de la nationalité, et parfois même
religieux.
Donc, l'indépendance de la Tunisie et la volonté de laisser les étrangers soumis à leurs propres lois et à leur propre statut personnel expliquent aussi le choix dès 1956 du rattachement du statut personnel par la nationalité. Au moment de l'indépendance, il y avait beaucoup d'étrangers qui vivaient en Tunisie et qui voulaient continuer à vivre. Bon, par la suite, les choses ont fait que beaucoup ont quitté le pays, etc., mais qui voulaient continuer à vivre et qui trouvaient plus adapté, plus cohérent de demeurer soumis à leur propre loi de statut personnel et de ne pas être soumis aux droits musulmans qui régissaient à l'époque le statut personnel des Tunisiens, ou en tout cas un droit religieux, parce qu'il y a aussi les Tunisiens juifs qui étaient soumis aux droits hébraïques. Mais par la suite, avec l'unification législative tunisienne et la promulgation du code du statut personnel, tous les Tunisiens sont soumis à un droit étatique, à savoir le code du statut personnel, indépendamment de leur religieux.
Parce que je crois que les tribunaux rabbiniques ont été supprimés.
Ont été supprimés, de même que les tribunaux charaïques. Et les tribunaux charaïques ont été supprimés avant même les tribunaux rabbiniques. Il y a eu un mouvement d'unification du droit et des juridictions en matière de statut personnel.
C'est quand, quelle date ?
Au début de l'indépendance, 56-57, il y a eu plusieurs étapes. On a d'abord supprimé les juridictions charaïques, ensuite on a supprimé les juridictions rabbiniques. Donc, mais ça s'est fait entre 1956 et 1957. Et avec une loi de septembre 57, on a fini par unifier les juridictions tunisiennes en matière de statut personnel et unifier le droit applicable. Mais en 1956, lorsqu'il y a eu l'indépendance de la Tunisie, et dans les accords tunisio-français, il y avait cette exigence de laisser les étrangers qui vivaient en Tunisie être soumis à la loi nationale. On considérait que ça donnait plus de garanties pour eux et c'était plus adapté à leur statut personnel. Mieux que l'application de la loi du domicile. Donc voilà les soubassements, je dirais, historiques du fait que le droit de la nationalité reste toujours le rattachement, ou bien exclusif, ou alors principal en droit international privé tunisien. Cela s'ajoute aux avantages inhérents au rattachement par la nationalité. Chez les juristes de droit international privé, d'ailleurs que ce soit en Tunisie ou en France, il y a deux écoles. Il y a une école qui veut rattacher le statut personnel par la nationalité, en estimant que la nationalité a des avantages. L'avantage de la stabilité, on change plus facilement de domicile que de nationalité, et par conséquent, lorsqu'on rattache par la nationalité, même si on change de domicile, notre statut personnel sera soumis toujours à la même loi. Et il y a le souci de permanence. Aussi, il ne suffit pas de changer de domicile pour qu'il y ait un changement de nationalité. On considère aussi que la nationalité, il y a derrière l'idée de nationalité toute une culture, et on reste imprégné par sa nationalité, même si on ne vit pas dans le pays de sa nationalité, et par conséquent, l'application de la loi de la nationalité paraît plus adaptée. Donc voilà les justifications de la soumission à la loi de la nationalité dans le code de droit international privé. Cela s'ajoute au fait que la Tunisie aujourd'hui est un pays d'émigration, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de Tunisiens qui émigrent à l'étranger, et en particulier en Europe et en France, et que de ce fait, le choix d'un tel élément manifeste la volonté de garder un rattachement des nationaux au pays, même s'ils se déplacent et élisent domicile à l'étranger. Le fait de les soumettre toujours à leur loi nationale, si évidemment les tribunaux tunisiens se déclarent compétents, c'est dire pour l'État tunisien que vous êtes toujours rattaché au pays, qu'au moment où vous avez un litige en matière de statut personnel, etc., vous serez soumis à la loi nationale. C'est une manière de garder le cordon, je dirais, ombilical entre le pays et les nationaux de ce pays, même s'ils vivent à l'étranger. Ces avantages liés aux critères de la nationalité n'empêchent qu'ils génèrent certains inconvénients, qui appellent aussi des correctifs. L'inconvénient majeur qu'on vivait en Tunisie, c'est que, en matière de droit du statut personnel, c'est un droit qui a évolué vers l'égalité entre les sexes, entre les époux. Je ne dis pas qu'il y a une égalité complète, nous avons toujours une inégalité en matière successorale, mais c'est un droit qui a évolué vers l'égalité. Cela suppose, en droit international privé, que nous avons une règle de rattachement égalitaire entre les époux, qu'on ne privilégie pas l'époux ou l'épouse. Or, si on ne rattache que par la nationalité, et qu'il y a un couple binational, un époux de nationalité et une épouse d'une autre nationalité, en cas de divorce, s'il n'y a pas un autre rattachement, on est bien obligé de privilégier la loi de l'un ou de l'autre. Et en 1956, on trouvait tout à fait naturel de privilégier la loi de l'époux au moment du divorce, la loi du père en ce qui concerne la tutelle, par exemple. Et en 1956, cela paraissait normal. Mais avec l'évolution culturelle, l'évolution sociologique, évidemment, le droit international privé devenait incohérent avec le droit interne et on demandait un changement. Le changement s'est fait en 1998 par l'introduction de la notion de domicile, mais de manière subsidiaire. C'est-à-dire qu'en cas de nationalité commune, on applique la loi nationale commune. Au cas où il n'y a pas de nationalité commune, on applique, on abandonne le critère de la nationalité, on applique le critère du domicile. Et les deux époux, normalement, ont un domicile commun. Et si jamais ils n'ont pas de domicile commun, on va appliquer la loi du fort, c'est-à-dire la loi du tribunal. Et c'est une règle qu'on a reprise d'une jurisprudence française qui est toujours en vigueur, la jurisprudence dite Rivière, un arrêt de la Cour de cassation française, qui rattache par la nationalité commune en matière de divorce, sinon par le domicile commun, sinon la loi du tribunal saisi. Donc, voilà certains inconvénients donc, du critère de la nationalité qui n'étaient pas corrigés par le texte de 1956, mais que le Code de droit international privé a corrigé en abandonnant le critère de nationalité lorsque les deux époux n'ont pas la même nationalité. Et il y a des difficultés. Il y a des difficultés lorsqu'une personne est apatride, et il y a des difficultés lorsqu'une personne a une double nationalité. Apatride, c'est-à-dire n'a pas de nationalité. Si on a une personne qui n'a pas de nationalité devant les tribunaux tunisiens et qu'on a un rattachement par la loi de la nationalité, que devra-t-on faire? Le juge ne peut pas dire « je ne peux pas juger », ce serait un déni de justice. Il faut qu'il trouve une solution. La solution relative au droit applicable au statut personnel de l'apatride est claire et elle est ancienne. Et elle est d'ailleurs universelle. Elle découle de la Convention de New York du 26 septembre 1954 sur le statut des apatrides. Cette convention rattache le statut des apatrides par le domicile. Même solution adoptée par la Convention du 28 juillet 1951 sur les réfugiés, parce que le réfugié a une nationalité, mais il a perdu tout contact avec le droit de sa nationalité, contrairement à l'apatride qui n'a pas de nationalité. Pour le réfugié aussi, on lui applique la loi de son domicile. Et la Tunisie a ratifié ces deux textes qui sont supérieurs à la loi et par conséquent, si devant le tribunal se présente un apatride ou un réfugié, le juge ne va pas lui appliquer la règle de l'article 39 que je vous ai lu, le rattachement par la loi nationale, il va lui appliquer la loi de son domicile et par conséquent, il va peut-être lui appliquer la loi tunisienne si son domicile est en Tunisie. Donc là, c'est pour l'apatride, la question est réglée par des textes universels. En revanche, lorsque l'intéressé a plus d'une nationalité, le code de 1998 a été très attendu sur ce point, afin de donner une solution législative à cette difficulté de rattachement. Et il n'a pas manqué de réglementer la question. Il n'a pas manqué de réglementer la question dans le chapitre relatif aux dispositions générales des conflits de loi. Du titre 5 relatif à la loi applicable. Cet article a dissocié deux hypothèses. Et je vais vous lire cet article. A dissocié l'hypothèse où il y a devant le juge tunisien un binational, mais un binational de nationalité en dehors de la nationalité tunisienne, donc un binational étranger. Par exemple, il a la nationalité française et la nationalité algérienne. Il peut être soumis au juge tunisien en ce qui concerne son statut personnel. Ou bien un binational, mais parmi les nationalités en présence, il y a la nationalité tunisienne. Là, la solution sera différente. Et je vais vous lire l'article 39 du Code de droit international privé, l'objet essentiel de notre analyse aujourd'hui. L'article 39 dispose ce qui suit. Le statut personnel est régi par le droit national de l'intéressé. Si l'intéressé bénéficie de plusieurs nationalités, le juge retiendra la nationalité effective. Donc, si l'intéressé bénéficie de plusieurs nationalités, le juge retiendra la nationalité effective. Si le plurinational est également de nationalité tunisienne, le droit applicable est le droit tunisien. Donc, voilà le texte. Le texte, statut personnel soumis à la loi nationale. Si l'intéressé bénéficie de plusieurs nationalités, la loi effective. Si parmi ces nationalités existe la nationalité tunisienne, ce sera le droit tunisien. Donc voilà la démarche utilisée par le législateur. Et je vais suivre la logique de cet article. Le rattachement du statut personnel du double national étranger, dans une première partie, et le rattachement du statut personnel du double national tunisien. C'est-à-dire Première hypothèse, français-algérien devant les tribunaux tunisiens. Deuxième hypothèse, tunisot-français. La règle est tout à fait différente. Donc, le rattachement du statut personnel du double national étranger. En disposant dans la linéa deuxième de l'article 39 du Code, si l'intéressé bénéficie de plusieurs nationalités, le juge retiendra la nationalité effective. Le législateur, à notre avis, adopte une règle assez ambiguë. Elle conduit nécessairement à la désignation d'une loi étrangère, ce qui risque c'est une règle d'abord ambiguë, elle conduira à l'application d'une loi étrangère, mais ce qui pose problème, c'est précisément lorsqu'il y a pas uniquement un litige de statut individuel de la personne, mais lorsqu'il y a une famille étrangère, et qu'un des membres de cette famille a une double nationalité étrangère. Que devra-t-on faire? C'est ce qu'on va voir en deuxième lieu. Et en troisième lieu, le fait qu'elle conduise à l'application d'une loi étrangère risque de conduire à une confrontation des valeurs en cas de contrariété à l'ordre public au sens du droit international privé tunisien et parfois risque de conduire à une éviction du droit applicable et à un retour du droit tunisien. C'est la troisième idée qu'on va évoquer ensemble. Donc d'abord, une règle ambiguë. Une règle ambiguë. Avant d'évoquer l'ambiguïté de la règle, je tiens à dire que ce n'est pas une création du droit tunisien. Cette règle de l'application de la loi effective est une règle classique, admise en droit comparé. Et c'est une règle, je pourrais même dire qu'elle est universelle, parce qu'elle a été consacrée par la Convention de La Haye du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives au conflit de loi sur la nationalité, qui prévoit dans son article 5 que dans un État tiers, l'individu possédant plusieurs nationalités devra être traité comme s'il n'en avait qu'une. Cet État pourra, sur son territoire, reconnaître exclusivement, parmi les nationalités que possède tel individu, soit la nationalité du pays dans lequel il a sa résidence habituelle et principale, soit la nationalité de celui auquel il apparaît d'après les circonstances comme se rattachant le plus en fait. Donc la dernière hypothèse, c'est l'hypothèse de la nationalité effective comme se rattachant le plus. En fait, elle est consacrée donc par la Convention de La Haye du 12 avril 1930. C'est la même règle qui est prévue dans un arrêt qui est resté très célèbre en droit international public par la Cour de justice de La Haye. Le fameux arrêt Notebaum du 6 avril 1955. C'est un arrêt qui avait consacré la notion de nationalité effective au cas d'un double national. Et même en matière d'arbitrage, dans l'affaire des tribunaux des différents irano-américains, on se posait la question, est-ce que ces biens appartenaient à des Américains ou appartenaient à des Iraniens en cas de double nationalité? Et la solution était de voir... Est-ce que cet individu qui possédait des biens, qui a été dépossédé de ses biens, est-ce qu'il était plus rattaché aux États-Unis ou à l'Iran par l'idée de la nationalité effective? Donc la solution est une solution classique. Elle est consacrée aussi, par exemple, nous sommes en France maintenant, elle est consacrée par les juridictions françaises depuis très longtemps, que ce soit en jurisprudence. Il y a un arrêt de la Cour de cassation française, l'arrêt Martinelli du 15 mai 1974, qui consacre cette solution, et même accepté par la doctrine française. Pourtant, nous estimons que cette solution est formulée, du moins en droit tunisien, de manière ambiguë. D'abord, quel est le domaine de cette règle? Est-ce qu'elle vise uniquement le statut individuel de la personne? Puisque l'article 39 nous dit « Le statut personnel est régi par le droit national de l'intéressé ». Donc, l'article suppose qu'il y a un intéressé. Donc, ce serait plutôt le statut individuel. On va se demander est-ce qu'il a la capacité de se marier, par exemple. Est-ce qu'il a la capacité de jouir de certains droits? Donc là, c'est plutôt le statut individuel. Ou est-ce qu'elle vise toutes les règles de conflit en matière de statut personnel, par exemple le divorce? Où là, ça n'implique pas uniquement le statut individuel de la personne, mais implique son statut personnel en relation avec d'autres membres de la famille. En effet, la catégorie du statut personnel a été éclatée dans le Code de droit international privé, et l'article 39 est le seul article dans le Code qui évoque explicitement la notion de statut personnel. Or, il y a d'autres articles qui évoquent les droits de la famille, les articles 45 à 53, notamment, qui évoquent les régimes matrimoniaux, qui évoquent les divorces et qui utilisent le critère de la nationalité. Et je vous ai lu certains de ces articles, par exemple, qui évoquent la nationalité commune des époux. Mais si un des époux a une double nationalité, quelle est la nationalité qu'on va prendre en considération? Est-ce qu'on va considérer qu'il y a une nationalité commune? L'hypothèse est la suivante. Une Française, par exemple, mariée à un Tunisien franco-tunisien. Est-ce que le juge tunisien va considérer que ces deux époux ont une nationalité commune? Parce qu'il est en même temps français et elle a la nationalité française. Ou est-ce qu'il va considérer que c'est un cas où il n'y a pas de nationalité commune puisqu'il est tunisien et il devra privilégier devant lui la nationalité tunisienne? Voilà une question qui se pose et qui n'est pas réglée par l'article. En réalité, la jurisprudence a eu tendance, et c'est logique, à élargir l'application de l'article 39 même aux rapports familiaux. Même aux rapports familiaux, parce que c'est le même problème qui se pose. Il peut se présenter en tant que double national devant le juge tunisien, et le juge doit déterminer quelle est la nationalité à prendre en considération. Lorsqu'il est dans des relations familiales, c'est le même problème qui se pose, et l'article 39, la solution de l'article 39 a été considérée comme une solution qu'on peut élargir de manière générale aux relations de statut personnel des Tunisiens ou des étrangers, que ce soit en l'appliquant directement ou en considérant que ça s'applique par analogie puisqu'il y a la même situation. L'ambiguïté majeure de ce texte, c'est la notion de nationalité effective. Que veut-on dire par nationalité effective? Le problème, mais pas uniquement le problème des juristes, mais le problème des sciences, et des sciences sociales de manière générale, et du droit de manière particulière, c'est les concepts. On utilise parfois des concepts, mais on a plusieurs définitions de ces concepts. Et c'est là tout l'enjeu. Or, le législateur utilise la notion de nationalité effective comme si c'était une évidence, alors que nous savons en doctrine qu'il y a deux conceptions de la nationalité effective. Il y a une conception dite la nationalité effective d'allégeance, et il y a la nationalité effective de proximité. Je m'explique. La nationalité effective de proximité, on analyse de manière concrète le statut de la personne. Où est-ce qu'il vit ? Combien passe-t-il de temps dans un pays ou dans un autre? On essaie en tout cas de localiser cette personne dans un pays bien déterminé. On considère que la nationalité effective de proximité, c'est la nationalité la plus proche. C'est là où il vit le plus, c'est là où il a le plus de liens, etc. Là, c'est l'idée de nationalité effective de proximité. Donc, c'est une analyse, je dirais, objective. Objective de la situation. Par exemple, je constate qu'une personne vit 11 mois en France et passe 2 semaines de vacances dans son pays natal. Je constate qu'il parle la langue française. Je constate qu'il est plutôt intégré dans la société française, je dirais que la nationalité effective est la nationalité française. En revanche, la nationalité effective d'allégeance est une autre notion. Elle considère que la notion de nationalité n'est pas uniquement une notion de rattachement matériel d'une personne à un État. Il y a un rattachement, je dirais, sentimental et spirituel, et un rattachement d'allégeance. Il y a certains signes qui montrent qu'une personne fait allégeance à tel ou à tel pays. Je peux vivre dans un pays pendant 11 mois ou pendant les 12 mois tout en portant allégeance à un autre pays. Je considère que j'appartiens à un autre pays. Dans la notion de nationalité effective d'allégeance, il y a la notion de souveraineté qui joue. Il y a certains signes. Lorsque j'ai le service militaire, est-ce que je choisis d'aller faire mon service militaire dans ce pays ou dans tel autre? Là, c'est un signe beaucoup plus important pour ceux qui croient à la nationalité effective d'allégeance, ceux qui croient à la notion de souveraineté. Donc, la nationalité effective d'allégeance est, ne s'appuie pas uniquement sur la notion de localisation, elle n'est pas aussi déterminante, il s'agit plutôt d'une nationalité de suggestion, suggestion, qui a pour objectif de dévoiler l'État qui exerce sur l'individu l'autorité réelle. Cela se manifeste non par des éléments matériels, mais plutôt par des éléments affectifs d'allégeance qui se dévoilent à travers certains éléments significatifs, État où l'on a fait son service militaire ou État où on a exercé des fonctions. Donc voilà un peu la question qui se pose, et ça ne conduit pas au même résultat. Et le législateur ne nous dit pas quelle est la notion de nationalité effective qu'il utilise. Par exemple, je prendrai un franco-algérien, pour ne pas dire tunisien, parce que devant les Tunisiens, on va privilégier nécessairement la loi tunisienne. Mais pour un franco-algérien, si je considère qu'il vit 11 mois et demi en France, que ses enfants étudient en France, qu'il utilise la langue française, je vais avoir tendance à dire automatiquement qu'il a la nationalité effective française. Mais si en revanche j'ai la notion de la nationalité effective d'allégeance, la question pose beaucoup plus de problèmes. Il peut vivre en France, passer 11 mois et demi en France, et être rattaché plutôt à l'Algérie qu'à la France. Et vous connaissez, sans entrer dans des détails, mais nous avons vu tous le match dans lequel était présent Chirac, où la question s'est posée dans un match de foot. La question s'est posée, et je comprends tout à fait que l'ancien président Jacques Chirac était un peu énervé, parce que dans un match franco-algérien, les Français appuyaient plutôt l'équipe algérienne que l'équipe française. Donc c'était un peu l'idée de nationalité effective de proximité et nationalité effective d'allégeance. Et on peut savoir facilement quelle est la nationalité effective de proximité par une simple constatation d'éléments de fait, tandis que la nationalité effective d'allégeance est beaucoup plus difficile à savoir.
Mais il y a les fameux accords binationaux aussi.
Oui.
Qui posent problème, puisque un individu peut effectuer son service dans le pays de son choix, Algérie ou France, par exemple.
Oui.
Je crois que c'est un texte de 82, je crois.
Oui, et là.
Et là, est-ce que si je choisis l'Algérie pour une raison d'opportunité, c'est une manifestation d'allégeance, ou si je choisis d'aller en France parce que c'est la décennie de l'Algérie?
Voilà, c'est ça le problème. La nationalité effective d'allégeance est une nationalité effective beaucoup plus difficile à déceler. Et il y aura une marge d'appréciation pour le juge de déterminer est-ce qu'il a choisi pour des raisons simplement d'opportunité, ou est-ce qu'il a choisi parce qu'il considère qu'il appartient plutôt à tel pays ou à tel pays. Là, c'est une question d'appréciation. En tout cas, dans un texte de loi qui me donne la notion de nationalité effective sans la définir dans une question aussi délicate, il laisse le juge dans une situation difficile. Dans une situation difficile, parce que comment va-t-il apprécier cette notion de nationalité effective et deux conceptions totalement différentes? Et jusqu'à maintenant, la doctrine s'oppose sur la définition de cette nationalité effective. Est-ce qu'elle est de proximité ou est-ce qu'elle est d'allégeance? Par exemple, en doctrine française, on trouve les deux conceptions chez les auteurs français.
Et certains. La jurisprudence là-dessus.
Et la jurisprudence elle-même est toujours hésitante. Certains.
Il y en a, oui.
Certains privilégient plutôt la nationalité de proximité, certains autres insistent sur des éléments bien particuliers pour essayer de découvrir l'allégeance d'une personne. Donc, ce que je peux dire, c'est que la règle de conflit est une règle assez ambiguë. En droit tunisien, la question s'est posée devant les juges tunisiens. S'est posée devant les juges tunisiens dans une affaire où il ne s'agit pas d'un double national tunisien. Donc il y avait moins de charges émotives, je dirais, pour le juge. Lorsqu'il s'agit de doubles nationaux étrangers, c'est beaucoup plus facile à régler que lorsqu'il y a un Tunisien pour définir une telle notion. Il y avait une affaire de succession d'une personne de double nationalité suisse et iranienne. C'était quelqu'un suisse et iranien qui avait fait des investissements en Tunisie, et on se demandait, au moment de sa succession, est-ce que sa succession devait être soumise à la loi tunisienne, à la loi suisse ou à la loi iranienne. Donc la question était très difficile, se posait, posait beaucoup de difficultés, et il fallait rechercher quelle était sa nationalité. Il y avait certains membres de sa famille qui voulaient privilégier la nationalité iranienne, et certains autres qui voulaient privilégier la nationalité suisse. Et le tribunal et les juridictions tunisiennes, dans certains arrêts, ont appliqué le droit tunisien. Donc les trois droits se posaient. Et sans entrer dans les détails de l'affaire, il y avait eu problème de quote-part successorale. Les héritiers de sexe masculin voulaient l'application de la loi iranienne, parce qu'elle prévoit le double pour les héritiers de sexe masculin, et les héritières de sexe féminin voulaient l'application de la loi suisse. Et l'enjeu était très important parce que c'est quelqu'un qui possédait énormément de biens, même en Tunisie. Et le juge d'appel, la cour d'appel de Tunis, a interprété la multiplicité des critères et la multiplicité des nationalités en considérant que elle a estimé que je n'ai pas à dire s'il est iranien ou s'il est suisse, puisqu'il a deux nationalités, je vais revenir à l'application du droit tunisien. Donc elle a considéré que c'est une difficulté qu'elle n'avait pas à régler, alors que l'article 39 est clair. Elle a considéré qu'il y avait un cas de problématique de détermination de sa nationalité, donc, juge tunisien, je devrais appliquer le droit tunisien. Et cette solution a été curieusement confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2008. Et c'est une solution qui est très critiquable parce qu'elle n'a pas suivi la directive de l'article 39 qui évoquait l'application de la nationalité effective.
Donc là, pour les biens de ce monsieur en Tunisie.
Pour les biens de ce monsieur, une des problématiques qui se posait d'ailleurs, vous posez une très bonne question. Une des problématiques qui se posait, est-ce que le juge tunisien était compétent uniquement pour les biens qui se trouvaient en Tunisie, ou est-ce qu'il était compétent de manière universelle pour les biens qui se trouvaient même en dehors de la Tunisie? Et là, c'était un autre problème qui se posait. Mais pour son fils, il demandait la compétence des juridictions tunisiennes de manière universelle, même pour les biens qui se trouvaient en Suisse. Et là, ça posait un autre problème. Est-ce que le juge tunisien pouvait être compétent pour des biens? Voilà, donc c'est une question des plus complexes. Mais moi, j'évoque uniquement cette question de la nationalité. Au lieu d'appliquer la règle de la nationalité effective, le juge tunisien a esquivé la difficulté et a considéré que c'est un cas où il y a un problème de détermination de la nationalité de ce décujus. Donc, pour le juge tunisien, il peut toujours revenir à l'application du droit tunisien, et il a appliqué le droit tunisien.
Le droit tunisien, dans ce cas-là, met à égalité l'homme et la femme.
Le droit tunisien, le problème, c'est qu'il est égalité, sauf en matière successorale.
Oui. Mais encore maintenant.
Encore maintenant, oui. Sauf en matière successorale, il y a toujours la règle de la part double qui est attribuée à l'homme. Donc, cette règle, de toute façon, pour... c'est tout? D'accord. Donc, je vais résumer la suite. Donc, cette règle du rattachement en cas de double nationalité étrangère risque de poser des problèmes parce que le juge va systématiquement, normalement, face à des étrangers, appliquer une loi étrangère. Et une loi étrangère, le juge va être confronté à des valeurs différentes en matière de statut personnel. Et nous avons eu des cas où il y a eu une éviction de la loi étrangère pour contrariété aux principes fondamentaux ou aux choix fondamentaux du système juridique tunisien. Maintenant, le deuxième volet de la règle le rattachement du statut personnel du double national tunisien, qui peut s'opposer plus devant les tribunaux tunisiens. Donc nous sommes dans le cadre d'un litige qui se pose en matière de statut personnel devant le juge tunisien, et il y a un Tunisien qui a une autre nationalité. Là, le législateur n'utilise pas le critère de la nationalité effective, il privilégie le droit tunisien. Il dispose, si le plurinational est également de nationalité tunisienne, le droit applicable est le droit tunisien. Donc, il y a une primauté de la nationalité du fort. Accorder la primauté lors du rattachement du statut personnel en cas de plurinationalité à la nationalité du fort est une règle classique, voire même universelle. La règle est universelle dans la Convention de La Haye du 12 avril 1930. L'article 1er dispose « Il appartient à chaque État de déterminer par sa législation qui sont ses nationaux et le recours à la nationalité effective n'est permis qu'au cas où il n'a pas la nationalité de l'État. Mais s'il a la nationalité de l'État en question, il n'est pas binational, il est national. On privilégie toujours le droit national. Donc lorsque la nationalité du fort est en concurrence, elle prime de manière systématique. On associe cette idée, en général, à l'idée de la souveraineté de l'État du fort.
Peut-être préciser ce que c'est que la loi du fort.
La loi du fort, c'est la loi du tribunal saisi. Le fort, c'est le tribunal. La loi du fort, c'est la loi du tribunal saisi. Par exemple, en cas de compétence du juge tunisien, le fort, c'est le tribunal tunisien. La loi tunisienne, c'est la loi du fort. La question a été posée aussi en France. Et il y a eu une affaire célèbre pour les juristes en France, l'affaire Cassapian contre Dame Cassapian, de la première chambre civile de la Cour de cassation française du 17 juin 1968, où on trouve l'attendu suivant. Lorsqu'un individu a plusieurs nationalités, dont la nationalité française, celle-ci est seule prise en considération par les juridictions françaises. Point. Donc c'est une affirmation claire. On a estimé en général que là, c'est une des dimensions régaliennes de l'État qui ne saurait accepter de partager sa population constitutive, donc sa propre substance, avec un autre État. Vérifier pour un juge l'effectivité de la nationalité de l'État au nom duquel il rend la justice, ce serait pour ce juge se mettre en opposition avec le pouvoir dont il tient sa mission et sans lequel il n'a aucune qualité. Là, je viens de citer un auteur français très connu, un illustre auteur qui est décédé, Henri Batifol. Ce serait donc une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs si j'octroie au juge la possibilité d'apprécier la nationalité effective alors qu'il y a la nationalité de l'État dans lequel il appartient. Ce serait comme s'il disait la nationalité a été attribuée de manière inexact. Ce serait une atteinte à la séparation de pouvoir. Donc les considérations régaliennes ont leur logique indéniable, même si aujourd'hui, ce ne sont plus les considérations régaliennes uniquement qui doivent être prises en considération. Aujourd'hui, on doit aussi prendre en considération qu'on doit appliquer à une personne un droit qui lui est adapté. Or, le droit qui lui est adapté, c'est le droit le plus proche. Si devant le juge tunisien se pose un problème de statut personnel d'un franco-tunisien, par exemple, qui vit depuis 20 ans ou 25 ans en France, qui ne rentre qu'une fois tous les 3 ou tous les 4 ans en Tunisie, et que pour une question de statut personnel, les juges tunisiens sont compétents, est-ce que ce serait adapté de lui appliquer la loi tunisienne ? À notre avis, c'est vrai que sur un plan régalien, sur un plan de souveraineté, c'est normal de privilégier la loi tunisienne, mais si on s'attache uniquement au statut individuel de cette personne, une appréciation de la proximité aurait été bienvenue. Et en tout cas, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a des techniques en droit qui permettent, sans abandonner la notion de primauté de la loi du fort, qui permettent de corriger en droit comparé. Par exemple, en France, on a la notion de clause d'exception. Qu'est-ce que ça veut dire une clause d'exception ? C'est-à-dire que si le critère de rattachement désigne une loi et qu'il s'avère que cette loi n'entretient que des liens très lâches avec la situation d'une personne, le juge peut ne pas appliquer cette loi et revenir à l'application d'une autre loi qui détient des liens beaucoup plus étroits. Le problème en droit tunisien, c'est que nous ne reconnaissons pas cette notion de clause d'exception. Et par conséquent, au cas d'un franco-tunisien, même s'il vit en France pendant 30 ans et que la question de sa succession se pose après 30 ou 40 ans, on lui appliquera la loi tunisienne. On considérera que même s'il a une double nationalité, c'est la loi tunisienne qui doit primer. Et là, ça peut conduire à des résultats choquants, même si ce sont des résultats adaptés à la notion de souveraineté et à la notion d'État. Aujourd'hui, la réalité du droit international privé devrait renouveler, à notre avis, la lecture, sans abandonner la notion de primauté de la loi de la nationalité de l'État devant lequel le problème se pose. On devrait trouver des correctifs lorsque vraiment la règle de conflit conduit à l'application d'une loi qui n'entretient que des liens très lâches avec la situation. Donc, je dois conclure. J'ai tenté dans cette étude de démontrer que la double nationalité a été réglementée en droit tunisien dans le code de 1998, et c'est une bonne chose, mais malheureusement n'a pas été réglementée de manière totalement satisfaisante en ce qui concerne le droit applicable au statut personnel des binationaux. Le droit tunisien a adopté des solutions classiques qui sont acceptables dans leurs principes, mais qui doivent être précisées, voire même connaître des dérogations ou des tempéraments dans des situations particulières. Une précision doit être faite. Quelle conception de la nationalité effective a été retenue par le législateur tunisien ? C'est de la bonne définition du concept et de la détermination de la conception que découlera une désignation rationnelle de la loi applicable en matière de statut personnel, désignation sur la base de la proximité ou sur la base de l'allégeance. De même, des adaptations et des tempéraments doivent être prévus afin de remédier à la rigidité de la règle accordant systématiquement une primauté à la nationalité du fort. Une clause d'exception en matière de statut personnel pourrait permettre de faire face au cas de désignation artificielle de la loi du fort alors que la personne a perdu tout contact avec la loi tunisienne. Espérons que cette analyse suscite un débat et on ne peut avancer qu'avec le débat. Et je vous remercie.
Merci beaucoup.